Vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, c'est Marceau le matin, 6h47 exactement. À la météo aujourd'hui, c'est une plus belle journée que ce qu'on a vécu dans le reste de la semaine. C'est moins 4 degrés présentement, moins 12 avec le facteur de refroidissement éolien. Ça va être de la neige intermittente, mais on parle d'une accumulation de 2 cm par endroit, donc ça va être très faible. Moins 1 averse de neige pour demain. Et par la suite, on a 3 degrés pour vendredi avec neige intermittente ou pluie. Et 4 degrés alternant soleil et nuages samedi. Donc, très beau début du mois de janvier sur Québec. Max, à la circulation, est-ce qu'il y a des choses à mentionner?
Un petit peu d'attente pour la Porte-Nord, mais ça se limite à ça.
Nous allons rejoindre à l'instant même notre chroniqueur politique et également directeur aux affaires publiques pour National, Marc-André Leclerc. Marc-André, bon début d'année 2026.
Bonjour, bonjour, bonne année.
Merci. Hey Marc-André, j'ai un ami qui me textait à la blague hier. Bon, si on veut régler la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, c'est facile. On envoie Enrico Ciccone parler à Mario Roy comme il a parlé aux journalistes. Puis c'est fait, Charles Milliard va être couronné. Tu es d'accord avec ça?
Ben, sans doute qu'il risque d'avoir de la pression sur M. Roy si... si la course se dessine seulement avec Charles Milliard puis M. Roy, c'est pas vraiment une course. Là. Donc, c'est un couronnement, mais qui s'étire parce qu'il faut se rendre au 14 mars puis il faut se rendre au vote. Hein. C'est ça la beauté de notre démocratie ici au Québec, au Canada. T'sais, tout le monde a le droit d'être pas sélectif. On n'a pas besoin d'être... On n'est pas dans la royauté. On n'est pas dans une question d'avoir... on n'est pas obligé d'être riche hein, pour faire de la politique ici. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Mais clairement, lorsque tu as un candidat comme Mario Roy qui a ramassé moins de 1 % le 14 juin dernier, pauvre là, 150 ans, puis là, tu dis la dynamique a changé. Là. Il a obtenu moins de 1 % et également, M. Roy a une dette de 18 000 $ à la première course et ça, les dons sont de 500 $ Fait dans le fond, c'est ici. Il y a beaucoup de travail à faire pour régler la première course pour Mario Roy. Puis également, ben, il doit ramasser des sous pour la prochaine course s'il se lance, celle qui va se terminer le 14 mars. Mais il faut se le dire, là, Charles Milliard, à cause du fait que c'est une course extrêmement rapide, puis ils n'ont pas le choix, l'élection est d'environ 270 jours, à l'élection générale. Là. Donc, on va aller voter là, le 5 octobre, là, c'est 270 jours environ. Fait, ils n'ont pas le temps. Fait qu'avec les règles, avec la rapidité de la course, puis le fait que Charles Milliard a déjà une équipe en place, ben tout l'avantage actuellement. Là.
Est-ce qu'on pourrait se faire avoir dans le décor pour Charles Milliard? Mettons, son équipe et lui-même peuvent-ils s'attendre à avoir une candidature à la Guy Cormier qui arrive dans le radar? Et là, les analystes politiques le disent, ben si Guy Cormier entre dans la danse, tout le monde devrait se tasser puis laisser le dance floor, la piste de danse. est-ce que tu es du même avis?
Oui, c'est sûr que si un nom comme Guy Cormier débarque, là, ça change vraiment la donne et Charles Milliard passe de favori à celui-là qui devra se tasser pour le bien du parti, probablement. Même s'il croit en ses chances, même si ce matin, on voit qu'il y a 200 jeunes militants libéraux, puisque ça, c'est un peu là, c'est sûr que ça fait impressionnant, 200 personnes comme ça, 200 jeunes, mais c'est des gens qui ont voté pour lui le 14 juin. Là, donc, c'est pas surprenant non plus de voir des jeunes. C'était un des avantages de M. Milliard, et c'est pour ça que bien performé le 14 juin, qui a terminé deuxième à 47-48 %. Mais c'est sûr que si un nom comme Guy Cormier débarque, bien là, M. Milliard devra se poser la question à s'assurer, est-ce qu'on fait vraiment une course, est-ce que je me tasse? Mais clairement, il a l'air décidé. Puis du côté de M. Cormier, lui, publiquement, n'a pas parlé, mais en coulisses, c'est ce qu'on entend, c'est qu'il passerait son tour. Mais Guy Cormier, là, son nom, il est pour les libéraux. Également, j'ai entendu son nom pour la CAQ si François Legault décidait de marcher dans la neige et de s'en aller. Donc, Guy Cormier est un peu à toutes les sauces présentement.
Un nom qu'on entend beaucoup, surtout depuis hier, depuis qu'il a parlé à Radio-Canada, c'est celui de l'ancien président de Via Rail Canada et ex-chef de la direction de Siemens Mobilité Canada, Yves Desjardins-Siciliano. Puis moi, dans les réponses que je lisais là, du texte de Radio-Canada, au départ, tu dis qu'on voit qu'il garde la porte ouverte, mais plus tu lis, plus il a l'air d'un gars qui a le goût de se lancer.
Oui, clairement, Yves Desjardins-Siciliano, comme tu dis, ancien PDG de ViaRail, de Siemens Mobilité Canada. Clairement, tu sens qu'il a le goût d'y aller. Cependant, M. Desjardins-Siciliano n'a aucune organisation. Donc, il y avait dans ses propos hier, dans des entrevues, il a dit, ben, tu sais, si vous m'organisez ça, je vais venir. Donc, clairement, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de racines au sein du Parti libéral du Québec. Monsieur Desjardins-Siciliano a plus de connexions avec tout ce qui est la politique fédérale. Donc, il a travaillé à l'époque dans des cabinets de Brian Mulroney, donc il a plus une connaissance. Et en 2019, il avait failli être candidat conservateur. Là. Ça avait été discuté, il y avait des offres qui avaient été faites, il y a des réflexions qui ont été faites. Donc, c'est un homme qui aime la politique, qui n'a jamais dit non à se lancer en politique. Mais là, pour faire une course à la chefferie à ce moment-ci, quelqu'un qui n'a pas de racines dans le parti, qui dit un peu en entrevue, ben, trouvez-moi des organisateurs, puis de l'argent, puis je vais y aller. C'est sûr, c'est un peu spécial parce qu'habituellement, là, si tu te lances une course à la chefferie, faut que tu sois capable de t'organiser un peu toi-même.
Est-ce que si cet homme-là se présente, faut aussi se tasser du côté de Charles Millard? On est-tu en train d'avoir, par exemple, un numéro 2 en Charles Millard? Pourtant, il s'est très impliqué, il revient, il a du charisme.
Ben, clairement, Charles Millard n'est pas la candidature que les gens au sein du parti pourraient dire hey, on fait tout, puis on tasse tout le monde, puis on arrête de chercher. Donc, clairement, M. Millard ne fait pas l'unanimité, et c'est un peu le problème de faire une course à la chefferie aussi proche de la première, là. Donc, ce qui fait en sorte que les clans sont encore là, les gens sont divisés. Même si Carl Blackburn n'y va pas, les gens qui ont travaillé pour M. Blackburn, qui a ramassé quoi, 25-26% au premier tour le 14 juin, ces gens-là ne veulent pas voter pour Charles Millard. Donc, ces gens-là, entre autres, sont des gens qui cherchent une alternative. Les gens qui ont voté pour M. Rodriguez le 14 juin, ces gens-là cherchent aussi une alternative, ne veulent pas nécessairement voir Charles Millard comme chef actuellement. Donc, on est en train, on travaille fort, on est beaucoup sur le téléphone, les textos, les courriels pour justement trouver quelqu'un pour bloquer le chemin à M. Milliard.
Mais c'est pas dit que ça va se faire parce que
Non.
la plage horaire est tellement courte, là.
Non, effectivement. Donc, si tu es un candidat de qualité, puis quelqu'un qui a, mettons, le prestige, le CV, la renommée pour être un numéro un, puis faire en sorte que tout le monde se tasse, même M. Milliard, ben, rendu là, faut te regarder l'état du parti, tes chances d'être élu comme premier ministre le 5 octobre prochain. Donc, tu prends tout ça en considération, également ton emploi du temps actuel. Donc, il y a plein de facteurs dont tu dois prendre conscience, que tu dois calculer et mettre sur un bout de papier, tu sais, les fameux, là, tu sais, la feuille en deux, les pour, les contre, là. Puis, tu sais, tu ramasses un parti non plus, là, qui va pas très bien dans les sondages, qui a 4-5 enquêtes, que tu dois devoir répondre, faire le ménage là-dedans. C'est pas la même chose. C'est pas le même parti libéral que lors de la première course à la chefferie.
Non, c'est ça, c'est assez pour te tasser. Marc-André, je t'amène sur la scène internationale, puis j'ai appris avec le temps, moi, à me tempérer et à regarder les choses à l'œil avant justement d'émettre une opinion claire ou de me positionner. Et là, samedi dernier, lorsque Donald Trump a enlevé Nicolas Maduro du Venezuela, j'ai vu plein de gens crier à Donald Trump, le grand démocrate vient de sauver la population du Venezuela. Mais comme j'avais fait pour Mark Carney, qui était censé nous régler ça avec Donald Trump en 48 heures, j'ai dit, ouais, on va attendre un peu. Et là, on apprend aujourd'hui que les milices armées sont dans les rues du Venezuela. La population fait file pendant 3-4 heures pour avoir accès aux épiceries, pour avoir accès aux stations-service. C'est pas pour délivrer la population que Donald Trump l'a fait, là.
Non, ça c'est clair. Puis dès le début, M. Trump s'est pas caché là, dès samedi par rapport au pétrole. Là. Puis il y a d'autres informations qui sont sorties hier, puis sans doute qu'on va y revenir dans les prochaines secondes. Clairement, c'est qu'on a sorti un dictateur de son pays, mais on n'a pas sorti son régime. C'est la numéro 2 devenue la numéro 1. C'est les mêmes gens qui sont en place. Ils ont juste enlevé M. Maduro, puis les autres personnes sont là. Il n'y a pas d'élection à court terme. Donc, pour les gens là-bas, oui, c'est sans doute une délivrance de voir une personne comme Nicolas Maduro n'être plus avoir le trône, mais cependant, celle qui l'a remplacé, c'est dans la même lignée, c'est la même famille politique, c'est le même régime. Donc, le régime est toujours là. Même M. Maduro, devant la cour à New York, a dit que je suis encore président. Donc, À partir de ce moment-là, on n'a rien changé à court terme. Et c'est ça qui était un peu des raccourcis de M. Trump samedi. T'sais, on va gérer le Venezuela. Ben, clairement, la Cour suprême du Venezuela, on dit la numéro 2 devient la numéro 1. Puis à partir de ce moment-là, M. Trump va être obligé de travailler avec ces gens-là.
Par contre, M. Trump a peut-être plus de chance au niveau transactionnel avec la numéro 2 qu'avec Maduro. C'est-à-dire ben là, pour si essayer justement de s'implanter au niveau pétrolier. Ouais.
Bien, si tu as peur des États-Unis, puis on a vu hier soir, en fin de journée, que le Venezuela va donner entre 30 et 50 millions de barils aux États-Unis qui vont revendre au prix du marché, puis M. Trump va contrôler cet argent-là, dit qu'il va aider le Venezuela, ça, on verra. Mais clairement, pour donner une idée, là, c'est 4 millions de barils de pétrole par jour hein, qu'on envoie du Canada aux États-Unis. Là, ils vont donner entre 30 et 50 millions de barils de pétrole, pas quotidiennement, mais d'un coup comme ça. Donc, c'est sûr, ça vient changer la donne, mais je pense pas que M. Trump est allé fait ce coup-là au Venezuela par grandeur d'âme. Il l'a fait surtout pour prendre le contrôle de 20 % de la réserve mondiale de pétrole qui est au Venezuela, même si ça coûte des milliards d'infrastructures supplémentaires à ajouter dans le pays. Sans doute que M. Trump sait que les grandes entreprises pétrolières américaines sont prêtes à aller de l'avant, sinon... Je pense pas qu'il aurait fait ce coup-là.
Est-ce que tu crois que la politique va devenir ce genre de stratégie économique-là encore plus dans les prochaines années? Penses-tu qu'on se tourne vraiment vers une politique qui, finalement, est plutôt égoïste, centrée sur soi-même pour se sauver de ce qui s'en vient dans le futur, puis assurément avoir les ressources naturelles, parce que c'est ça qui va créer l'économie pour la suite et la force et la puissance?
Oui, effectivement, le pétrole, les minéraux critiques, par exemple, on est dans un changement de paradigme important présentement. Il y avait une certaine stabilité depuis la fin de la guerre froide. Là, présentement, on est dans une, je dirais, dans une ère de création d'empire. Hein. La Russie veut se créer un empire, la Chine veut se créer un empire, et là, tu as Donald Trump et les États-Unis qui veulent se créer un empire. Donc, tu as trois forces mondiales qui veulent se créer des empires, chacun leur propre grand territoire. Dans cette nouvelle, dans cette pensée-là de ce qui se passe dans ma cour arrière est important pour moi, puis c'est ça, hein, tu sais, les États-Unis avec le Venezuela, tu dis, c'est dans ma cour arrière, c'est important. Les États-Unis, on parle beaucoup depuis 48 heures du Groenland, c'est important parce que c'est dans ma cour arrière. C'est la même chose avec la Russie, il dit, ce qui se passe en Ukraine, c'est dans ma cour arrière, puis ce que la Chine dit, ce qui se passe à Taïwan, c'est dans ma cour arrière. Donc, c'est très difficile pour les États-Unis d'aller faire la morale aux autres, d'aller dire à Poutine, arrête d'envahir l'Ukraine quand toi, t'as fait un coup au Venezuela, quand tu dis que tu veux que toutes les options sont sur la table pour le Groenland, tu es même prêt, tu veux les acheter, sinon même les options militaires sont sur la table. Donc, on vient de changer. Nous, comme Québécois, comme Canadiens, maintenant, il faut regarder, là, il y a trois puissances qui veulent créer des empires. Nous, on n'est pas là-dedans, on n'est pas ce type de joueur-là, c'est pas dans notre ADN. On choisit quel empire, là.
Ouais, exactement. Puis c'est pas nécessairement, il n'y a pas nécessairement un bon choix là-dedans.
Il n'y a pas de choix facile là-dedans.
Non, c'est ça. Marc-André, je termine la chronique parce que je sais que tu as déjà été dans des cabinets, notamment le cabinet de Stephen Harper au niveau du gouvernement fédéral. Puis je te pose cette question-là. Qui dit vrai au niveau du pétrole canadien? Est-ce que c'est Mark Carney et Daniel Smith qui disent qu'il faut absolument construire un pipeline au nord ou c'est le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, qui dit hey, avant ça, construisons donc des raffineries? Puis organisons-nous pour être autonomes avec notre propre pétrole avant de penser à un nouveau pipeline?
Un peu des deux, je dirais. Je pense que les deux sont vrais. Faut diversifier. Faut ouvrir dans l'Est ou dans l'Ouest, ça c'est clair, en termes d'infrastructures, de gaz naturel ou de pétrole. Puis également, ben, on ajoute aussi une certaine proportion de pétrole de l'étranger, parce que justement, nos infrastructures ne sont pas adéquates pour prendre le pétrole, exemple, de l'Ouest puis l'amener dans l'Est. Ça a certaines limites, certaines capacités. Donc, c'est un peu des deux. On doit, oui, aider sans doute à consommer les produits d'ici, là, autant à l'épicerie que peut-être à nouveau des ressources naturelles, mais également, on n'aura pas le choix d'exporter. Et là, on a vu la pression de Pierre Poilievre sur Mark Carney de dire « OK, allons de l'avant ». Bon, ça va prendre un nouveau projet du côté de l'Ouest. Il va y avoir des blocages avec les Premières Nations, avec, tu viens de le nommer, le premier ministre de la Colombie-Britannique. Ça aussi, ça va être comment on va pouvoir avancer là-dedans. Parce que au-delà, le 28 avril, lorsque les Canadiens ont élu Mark Carney, au-delà de dire on va régler les tarifs rapidement, chose qui n'est pas encore arrivée, puis ça va faire quoi? Ça va faire un an dans 3 mois, 3, 4 mois, qui est en poste. Au-delà de ça, également, il y avait la diversification de nos marchés. Puis à date, on ne peut pas dire qu'il y a des résultats concluants. Ça prend du temps, vous allez me dire, c'est vrai, mais présentement, c'est très urgent, là. C'est vraiment très urgent qu'on puisse aller là-dedans. On a du temps quand même, parce que, mettons, si on veut exploiter les réserves de pétrole au Venezuela, ça peut prendre 5 à 10 ans, 15 ans. On a du temps ici, mais construire des infrastructures comme celle-là, comme des pipelines, ça prend également beaucoup d'années. Ça va être un test, hein, pour le Canada comme pays. Est-ce qu'on est capable vraiment de mettre ce genre de projet-là, de les débuter, d'aller de l'avant? Il y a beaucoup de projets qui n'ont pas vu le jour dernièrement. Et on se demande, souvent les gens se demandent pourquoi il y a eu une baisse des investissements privés au Canada à partir de 2015. Il y a eu une chute qu'on n'a pas vu, exemple, aux États-Unis. C'est entre autres parce que les investisseurs voient bien qu'ici au Canada, c'est très difficile d'aller de l'avant avec des projets importants comme des pipelines.
Exactement, c'est ce que Mark Carney va tenter là, justement de travailler. Mais jusqu'à présent, tu l'as dit, les résultats sont pas là. Reste à voir comment ça va se dérouler là, dans les prochains mois.
Peut-être en ajout à cette question-là, du moins par tes compétences en politique fédérale, je serais très curieuse de connaître ce que tu es capable de dire ou ce que tu souhaites dire par rapport à quelle était la stratégie autrefois sous un gouvernement conservateur par rapport à développer le Canada comme étant une unicité entre les provinces, oui, mais pour nos ressources. Versus s'appuyer un petit peu sur nos forces économiques voisines, parce que clairement, ce sera un filon à prendre avec une vitesse grand V là, dans les prochaines années.
Oui, ben, c'est autant, oui, des changements de gouvernement qui sont arrivés, mais également un changement aussi dans l'acceptabilité, le fait d'accepter socialement certains projets, comment on définit ça. On a vu aussi au Québec, en hein, GNL Québec, là, dans ma région, Sénélac-Saint-Jean, un projet de 14 milliards d'investissements privés qui était bloqué par le gouvernement de la CAQ. Est-ce qu'on pouvait se permettre ce genre de projet-là? Mais il y a eu beaucoup de manifestants, oui, des gens qui n'étaient pas contents dans la région de Sénélac-Saint-Jean, mais à l'extérieur. Donc, c'est notre processus également de consultation. Quand on fait un projet, il n'y a pas 100% des gens qui vont être d'accord avec ce projet-là. Mais jusqu'à quel moment on dit oui, on va de l'avant? Et comme dit souvent M. Legault, ça va prendre du courage pour nos politiciens d'aller de l'avant, même s'il y a des gens qui lèvent la main. Puis qui disent qu'ils sont en désaccord avec ce projet.
Non, en effet, je suis entièrement d'accord avec toi, Marc-André. Marc-André Leclerc, chroniqueur politique et directeur principal aux affaires publiques chez National. Merci beaucoup pour ta participation ce matin, Marc-André.
Merci, à bientôt.
On se reparle bientôt. Salut, bonne journée. Marc-André Leclerc, qui est régulièrement le collaborateur avec nous dans Marceau le matin. Pascal, Max, la donne politique est en train de complètement changer. Puis Pascal, t'en as parlé comme politique égoïste. Je suis d'accord avec toi. Politique transactionnelle aussi.
Oui.
C'est là-dedans qu'on va se retrouver. Puis c'est ce que Marc-André nous expliquait à la fin, selon moi. C'est dire, ça fera jamais l'unanimité à 100%. Donc, ce consensus social-là, cette acceptabilité sociale-là, va falloir de plus en plus la considérer, mais que ça soit pas nécessairement le facteur principal, que le facteur principal va être le développement de l'économie, parce que là, les États-Unis sont en vitesse grand V avec Donald Trump, la Russie, la Chine, et avec raison, Guillaume mentionne également l'Inde. Et d'ailleurs, le premier ministre de la Colombie-Britannique part ce matin en mission pour l'Inde pour aller tisser des partenariats économiques avec le monde indien. Alors, vraiment, au Canada et au Québec, on n'aura pas le choix de se mettre dans cette logique-là également. Sinon, ben, on ne survivra pas.
Non, absolument pas. Puis moi, c'est ça, j'aurais aimé ça développer avec Marc-André là-dessus. Je ne suis pas sûre qu'il puisse le faire. Puis peut-être qu'il n'était pas à l'interne à ce moment-là. Mais est-ce qu'il considère qu'on a manqué une opportunité à un moment? Y a-t-il entendu quelque chose? Puis on se dirigeait pas nécessairement dans une politique où on allait se faire valoir, on allait s'auto-construire au Canada beaucoup plus que ce qu'on a fait auparavant. Je sais que sous les conservateurs, c'était quand même quelque chose de très important. Là, la politique économique de Mark Carney ressemble quand même à une politique économique conservatrice.
Oh, clairement.
N'en déplaise à ceux qui disent qu'il fait rien jusqu'à maintenant. Effectivement, on s'attendait à beaucoup. Est-ce qu'on a la marge de manœuvre?
L'idéologie plus dans l'idéologie conservatrice.
Oui, au niveau économique, là, avec le dernier en plus bilan qu'on a sorti. Sauf que je me demande pourquoi est-ce qu'on s'est assis un peu sur nos lauriers et notre entraide.
Ouais. On a eu très confiance aux États-Unis, je crois. Puis en même temps, ça nous sécurisait puis ça nous empêchait de dépenser des coûts aussi, d'avoir cette dépendance-là aux États-Unis, qui vient de nous revenir là, au visage. On fait une courte pause dans Marceau le matin. Par la suite, on revient avec l'essentiel d'actualité. On va également faire une bonne tournée sportive parce que qu'est-ce qu'il y en a du ménage à trois des gardiens de but du Canadien? Et la terre a tremblé, Max, à Baltimore hier. John Harbaugh, l'entraîneur des Ravens, après 18 années à la barre des Ravens, s'est vu montrer la porte.
Tout ça à cause d'un botté de placement de 3 points raté.
Exactement. Tyler Loop, on le rappelle, qui a raté ce botté de placement-là. Puis on va parler comment John Harbaugh, justement, avait accompagné ce botteur à la fin du match. C'était de façon très, très, très humaine. Donc, on revient après cette courte pause à Marceau le matin sur les ondes de Boulevard 102.1.
Marceau le matin.